Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Ils seront nos invités, ou plutôt elles seront nos invités dans la première partie de l'émission pour parler de monnaie et d'argent. Et puis nous retrouverons nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux, pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Nos chroniqueurs, Stéphanie Collo, notre bibliothécaire qui nous projettera vers l'avion du futur. Et puis notre globetrotter aujourd'hui, ce sera Frédéric Simotel qui lui nous emmènera dans la Silicon Valley. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. On démarre tout de suite avec nos invités. Et oui, l'argent, et bien sûr notre rapport à l'argent, nous, les Français. Alors évidemment, comme sur beaucoup d'autres sujets, vous allez voir, il y a des exceptions françaises, mais pas celles qu'on croit. Un seul exemple, vous croyez que les Anglo-Saxons sont plus obsédés que nous, les Français, par l'argent? Eh bien, vous vous trompez. Pareil sur la générosité. Vous allez voir, en fait, je les trouve pas très sympathiques, les Français. C'est Claudia Sénic qui va nous expliquer pourquoi. Claudia Sénic, bonjour.
Bonjour.
Claudia, vous êtes professeure à Sorbonne Université et à l'École d'économie de Paris. Vous dirigez l'Observatoire du bien-être, CEPREMAP. Et j'en profite d'ailleurs pour vous présenter, eh bien, le rapport annuel, le rapport 2020, donc, du bien-être en France. Plein d'informations vachement intéressantes à glaner dedans. Mais vous publiez aussi Les Français et l'argent, 6 nouvelles questions d'économie contemporaine. C'est chez Albin Michel. C'est un ouvrage collectif que vous avez copiloté avec Daniel Cohen. Et puis l'argent, c'est en grande partie, mais pas que, de la monnaie. Et là, la monnaie, évidemment, ses formes évoluent au fil des révolutions technologiques, politiques, sociales, environnementales. Alors, à quoi sert aujourd'hui la monnaie? Est-ce que son rôle va évoluer? Est-ce qu'elle va prendre des formes nouvelles, différentes? Est-ce que plusieurs monnaies vont coexister? Eh bien, c'est ce qu'on va voir avec vous, Natacha Valla. Bonjour Natacha.
Bonjour.
Vous êtes la doyenne de l'école du management et de l'innovation à Sciences Po. Et vous publiez avec Michel Aglietta « Le futur de la monnaie » aux éditions Odile Jacob. Claudia Sénic, on commence avec vous. Je n'irai pas par quatre chemins. Est-ce que l'argent fait le bonheur des Français ou pas?
Oui, bien sûr. L'argent, les gens les plus riches sont plus heureux que les plus pauvres.
Ça, c'est une constante. Ça.
Toujours et partout, dans n'importe quelle enquête, à n'importe quelle année, les plus riches se disent plus heureux que les plus pauvres. Les habitants des pays riches se disent plus heureux que les habitants des pays pauvres. Mais évidemment, le paradoxe, c'est qu'au long cours, ça finit par s'user. Et on ne retrouve pas ce surcroît de bonheur dans les pays qui connaissent une croissance continue.
Alors, le problème, Claudia Sénic, je ne sais pas si c'est un problème d'ailleurs, c'est que ce que vous montrez, c'est que les Français, ils sont davantage obsédés par l'argent que les Américains, par exemple.
Enfin, obsédés. En fait, ce qu'on montre, c'est effectivement, quand on regarde la relation, enfin, la fonction, ce qui rend les gens heureux, quand on estime une fonction de satisfaction,
ouais.
Et ben, en fait, le revenu a un poids plus important dans la jeunesse de la satisfaction des Français que des autres Européens. C'est assez étonnant. Donc, l'argent, par rapport à d'autres choses, compte plus pour les Français que pour les autres. C'est quelque chose qu'on a observé avec surprise, parce qu'effectivement, les Français se pensent comme une société qui accorde plus d'importance à la culture, au symbolique, au statut.
Alors, là où c'est encore plus paradoxal, c'est qu'effectivement, vous dites, les Français, ils sont attachés au statut, ils sont attachés à l'égalité. Et alors, en fait, ce qui les rend par-dessus tout heureux, c'est d'être plus riches que leurs voisins.
Ça, comme tout le monde, oui, effectivement.
Ah, ça, c'est partout.
Oui, la comparaison joue beaucoup. Et même, la question, c'est de savoir s'il n'y a que les comparaisons qui comptent, c'est-à-dire les écarts, ou s'il y a quand même quelque chose d'absolu dans le fait, est-ce que dans le niveau de vie, il y a quelque chose qui rend heureux en tant que tel? Je pense quand même que oui. Mais les écarts comptent, les comparaisons comptent. Et peut-être qu'en France, les comparaisons comptent particulièrement, puisque société de statut...
Eh ben oui. Alors, ce qu'on voit aussi, quand même, d'assez paradoxal avec les Français, c'est qu'ils sont structurellement moins heureux que tous les autres.
Bah ça, on en avait déjà parlé. Ça fait un certain temps qu'on a découvert également ce fait étonnant. C'est que pour des conditions de vie identiques, bah les Français se déclarent moins heureux que si c'était les Belges qui vivaient dans les mêmes conditions, par exemple. Donc il y a une espèce de déficit de bonheur français au regard des conditions de vie, de l'école gratuite, de la santé gratuite, de tout le patrimoine culturel, naturel, etc.
Et qu'est-ce qui rend le français malheureux ?
Probablement un rapport au passé, un rapport un peu nostalgique au passé, et un rapport un peu réticent à l'avenir et aux transformations de la société française, du modèle français, auquel on est attaché, mais dont on s'éloigne, mais un peu à regret, donc en restant un peu au milieu du guet.
Est-ce qu'il a peur d'être moins protégé, le français ?
Donc, les Français attendent beaucoup de l'État.
Ouais.
Et dans un monde où les phénomènes qui touchent les gens dépassent largement l'échelle de l'État, les changements technologiques, etc., c'est des phénomènes mondiaux, le fait que l'État puisse plus les protéger est une source d'anxiété.
Alors, la constante, c'est aussi qu'ils sont pessimistes sur l'avenir des Français en général, mais alors que pour eux, personnellement, c'est peut-être aussi l'autre effet de notre modèle social, c'est que eux, personnellement, ils disent « non, pour moi, ça va ».
C'est ça. En fait, par exemple, le baromètre qu'on a à l'Observatoire du bien-être en partenariat avec l'INSEE, donc tous les trimestres, on pose 20 questions aux Français. Et on voit que 20 questions sur les dimensions de leur satisfaction dans la vie ou de leur bonheur. On voit que toutes les questions qui touchent leur vie personnelle, les relations sociales, amicales, leur travail, etc., ça va. Ça va très bien. Enfin, il y a plus de la moitié des gens qui sont très contents. En revanche, dès que ça sort de leur domaine de contrôle, dès que c'est l'avenir du pays, l'économie, surtout l'économie, en fait, là, c'est très, très pessimiste, très négatif.
Ouais. Alors, il y a un autre point, et c'est pour ça que je dis que au fil du livre, les Français ne ressortent pas très sympathiques. C'est qu'en fait, moi, je pensais qu'ils étaient généreux, les Français. Et vous dites non, les Français, ils sont pas généreux. Quand on regarde, par exemple, les comportements en matière de dons, de charité, eh ben, les Français, ils donnent pas beaucoup.
Ça, c'est le chapitre de Gabriel Fac, Camille Landais et Alice Minkowski qui montrent que effectivement les Français les plus riches, hein, parce que ce sont les plus riches qui donnent le plus, en proportion de leurs revenus, les 10% les plus riches ou même les 0,1% les plus riches donnent beaucoup moins en France que en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, etc. Alors qu'en France, on a le système le plus généreux. En fait, quand vous donnez 1 euro à une association ou à une fondation reconnue de utilité publique, vous êtes remboursé de 66 centimes.
Donc ça veut dire que, parce que
l'État prend en charge 66% de ce qui arrive aux associations ou aux fondations.
Parce que vous voyez, moi je pensais quand j'ai commencé le chapitre, je me dis bah forcément ça doit être pour des raisons fiscales. Et ben non, pas du tout. En plus, les Français, la fiscalité est plus avantageuse.
Beaucoup plus. C'est la plus généreuse du monde.
Et alors pourquoi ils sont radins, nos riches ?
Non, c'est pas qu'ils sont radins, c'est que c'est une différence culturelle. En fait, dans les pays anglo-saxons, il y a toujours eu cette habitude de donner aux fondations, aux charités, etc. Et puis il y a aussi peut-être une habitude, c'était aussi quelque chose qui était dans la fiscalité, qui était intéressant. Et en France, c'est beaucoup moins ancré pour l'instant dans les mentalités.
Alors, le consentement à l'impôt, c'est aussi un des sujets que vous avez abordé dans cet ouvrage collectif. Et vous dites, c'est presque étonnant qu'il n'y ait pas plus de Français qui fraudent, compte tenu du fait que c'est quand même facile de frauder. Et puis que ça rapporte quand même pas mal d'argent, et puis que le risque d'être sanctionné est quand même assez faible.
C'est ça, c'est le chapitre de Lucas Rondel, Stéphane de...
Ah non, celui-là, c'est non, le chapitre... Lucas Rondel, c'est pardon. Sur l'économie non, du pardon. Sport. Ça, c'est le chapitre... Mais je ne vous en parlerai pas aujourd'hui, parce qu'on l'a reçu il n'y a pas longtemps, Lucas Rondel.
Tant mieux. Ça, c'est le chapitre de Nicolas Jacquemet et Stéphane Lucchini et Antoine Malézieux. Donc effectivement, à part pour les gens qui sont vraiment déterminés à frauder, pour les autres, il y a une espèce d'indétermination de la volonté. En fait, ils ne savent pas trop, est-ce que finalement
je paye ou pas, etc.
Et il y a des expériences qui sont faites en laboratoire, donc c'est l'économie expérimentale, l'économie comportementale, qui montrent que quand on fait en sorte que les gens s'engagent à se comporter de manière honnête, à payer ce qu'ils doivent, etc. Mais du coup, ils le font beaucoup plus que si on ne fait pas ce petit dispositif. Comme si le fait de s'engager, je sais pas, constituait une identité, qu'après, il est coûteux de transgresser. Tout à coup, on se voit pas transgresser, on se voit pas ne pas payer l'impôt. Donc, il y a une espèce de morale fiscale qui est internalisée par les gens, par le fait qu'ils font ce geste de dire « je m'engage ».
Oui, sauf que ils ont un peu envie de frauder. Mais ils trouvent que c'est pas bien, et donc vous vous dites, si jamais on leur demande de s'engager sincèrement sur leurs revenus, ils oseront moins frauder.
C'est quelque chose qu'on voit souvent dans ces expériences, que ça soit pour la fraude fiscale ou pour d'autres choses, parce que les expériences souvent c'est à petite échelle, c'est que quand on active l'identité morale des gens, ça a un effet très fort sur leur comportement. Comme si ça rendait cette conscience morale plus vive. Et c'est pas, voilà, c'est, ça renforce leur volonté. C'est une faiblesse de la volonté qui fait qu'ils fraudent. Et si on renforce cette volonté qui est liée à leur identité de citoyen qui comprend que payer l'impôt, c'est contribuer aux dépenses de la société, à ce moment-là, ils ont une sorte de morale civique qui est une morale fiscale et qui est plus forte.
Ouais, alors juste, il y a un livre dont le nom m'échappe, mais qui vient de sortir, absolument passionnant, sur ce qui se dit auprès des prêtres pendant les confessions. Alors, tout ça a été fait de façon très anonyme, etc. Et alors, c'est très intéressant de voir quels sont les thèmes sur lesquels les gens viennent se confesser. Et une des conclusions du livre, c'est que les gens ne viennent jamais se confesser pour des raisons fiscales. ils ne regrettent jamais de ne pas avoir payé leurs impôts comme ils auraient dû le faire.
Effectivement, oui, dans certaines enquêtes, il y a la question, est-ce que vous trouvez ça normal de frauder les impôts lorsqu'on peut le faire ? Et les proportions de gens qui répondent oui, c'est normal dans ces questions sont vraiment très corrélées avec effectivement la fraude fiscale qu'on estime dans le pays. Donc, alors, quand on le fait, c'est qu'on trouve ça en fait assez normal.
Alors, autre point, Claudia Sénic, et qui est intéressant, parce que c'est des sujets qui n'étaient pas beaucoup documentés par le passé, et sur lesquels vous avez des données assez nouvelles, qui permettent de voir le comportement des Français, c'est qu'est-ce qui se passe au moment du départ à la retraite ? Parce que c'est vrai que le départ à la retraite, c'est un bouleversement pour beaucoup de Français. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans l'intimité des familles ? C'est-à-dire, est-ce que on décide qu'on va s'organiser pour partir en retraite ensemble ou pas ? Et alors là, moi, je suis désolé, mais je vais encore vous dire que je trouve pas les Français très sympathiques. C'est-à-dire qu'en gros, au moment du départ à la retraite, c'est chacun pour soi, finalement, dans la date de départ. Alors que vous dites, par exemple, dans les pays anglo-saxons, les hommes et les femmes s'arrangent pour se retrouver à peu près en même temps à la retraite, etc. Chez les Français, non, pas du tout. Chacun suit sa route.
Vraiment étonnant, et ça c'est le chapitre de Elena Stancanelli et Nicolas Moreau. L'idée générale, c'est quand même intéressant, c'est que l'État met en place des politiques publiques qui visent l'offre d'emploi, etc., des individus, mais les individus vivent en fait en couple ou en groupe,
et oui,
en famille.
Exactement.
Et donc en fait, ils coordonnent souvent leur comportement, et peut-être qu'il faut prendre ça en compte. Et c'est vrai que dans des pays anglo-saxons, on a mis en évidence le fait que quand la femme ou l'homme partait à la retraite, souvent l'autre, ils se débrouillaient soit l'un pour attendre l'autre, soit l'autre prenait sa retraite plus tôt. Et en France, les auteurs n'ont pas vu ce comportement, donc la France serait un pays plus individualiste.
Mais à quoi c'est dû ?
Là, c'était en analysant les enquêtes emploi du temps. Hein, donc on sait ce que les gens font pendant la journée, et on regarde s'ils font plus d'activités en commun depuis qu'ils sont partis à la retraite. Réponse non. Ils continuent à vivre comme autrefois, une partie séparée, une partie ensemble.
D'accord. Mais donc, est-ce que s'il n'y a pas des forfaits pour partir plus tôt ou plus tard, etc., est-ce que c'est pas lié aussi à notre système de retraite qui fait que, des fois, vous n'avez peut-être pas le choix si vous n'avez pas le nombre de trimestres vous
êtes. Des fois, on n'a pas le choix. Ça peut aussi être pour des raisons financières. C'est que parfois, s'il y en a un qui part plus tôt, du coup, il y a peut-être moins de revenus, donc l'autre travaille plus longtemps. Ça peut être aussi pour des raisons de pouvoir d'achat, sachant que c'est un des gros problèmes en France.
Oui. Puis bon, il faut aussi pouvoir se supporter au quotidien, ce qu'on n'a jamais fait peut-être pendant des décennies des décennies. Alors, Natacha Valla, on vient de parler d'argent. L'argent, c'est en grande partie de la monnaie. Je dis en grande partie parce que ça n'est pas que de la monnaie. Enfin, pour les Français, l'argent et la monnaie, c'est quand même à peu près pareil. Alors, vous n'allez pas échapper à la question de cours, Natacha Valla. Donc, dans Le futur de la monnaie que vous écrivez avec Michel Aglietta, la monnaie, c'est quoi et à quoi ça sert ?
Alors, la monnaie, c'est une institution qui nous accompagne depuis bien longtemps, qui a traversé les âges et qui remonte très très loin finalement. Une exception, c'est difficile de définir la monnaie parce qu'il y a plusieurs attributs, il y a plusieurs fonctions que remplit la monnaie telle qu'on la conçoit. On paye avec de la monnaie, on accumule un peu des actifs avec de la monnaie, ça sert aussi de... Voilà, il y a des fonctions de système de paiement, enfin bon, ça...
Si je farfouille dans la mémoire de mes cours de première année d'économie, c'était unité de compte, c'est-à-dire en gros, ça permet de compter, d'afficher des prix, réserve de valeur, donc on épargne, on accumule, et puis moyen de transaction, on échange.
C'est ça, c'est les trois grandes fonctions. Mais alors en réalité... Il y a beaucoup de monnaies, il y a des monnaies différentes en fonction des zones du monde que l'on occupe. Et il y a un dénominateur commun dans la définition de la monnaie, là on a parlé des fonctions, mais la définition, c'est, curieusement on parlait des impôts tout à l'heure, c'est le fait d'avoir une entité qui est acceptée comme contrepartie par l'État pour le paiement de l'impôt. Et ça, c'est une définition qui a l'air neutre comme ça, qui a l'air un peu technique, mais qui a plein de conséquences sur les discussions qui se développent maintenant, et je pense qu'on va en parler, sur qu'est-ce qu'une monnaie ? Est-ce que l'euro, le dollar, c'est bien mieux que des formes de liquidité qui pourraient se substituer à la monnaie ?
Alors, vous dites quand même, la monnaie, c'est aussi une convention sociale. Ça, c'est la grande thèse hein, de Michel Aglietta, André Orléans, etc. C'est que la monnaie, c'est aussi une convention sociale. Et que ça a un rôle majeur dans la régulation des rapports sociaux.
Bien sûr, et en fait je pense que c'est un bon moment aujourd'hui pour remettre cette idée sur le métier. Pourquoi ? Parce que dans le fond, on se rend compte que dans toutes les discussions qui ont lieu aujourd'hui sur la monnaie, elles sont liées à quoi ? Elles sont liées aux grands doutes qui émergent par rapport au fait que les banques centrales, qui sont en charge de l'émission de la monnaie souveraine, c'est-à-dire liée à un souverain et donc de la monnaie fiduciaire, ont émis beaucoup de monnaie. On dit dans le langage courant que la planche à billets a fonctionné pour traverser la crise. Et il y en a beaucoup qui disent, ben voilà, il y a tellement de monnaie, on ne sait pas trop où elle est, on ne sait pas comment ça se passe, on ne sait pas vraiment ce que vaudra un dollar ou un euro au bout du compte. Et puis il y a d'autres discussions qui disent, ben voilà, il y a des émetteurs privés qui peuvent se mettre à vouloir émettre quelque chose qui peut vouloir se faire aussi passer pour de la monnaie. Et en réalité, ce qu'il y a derrière tout ça, et j'en reviens avec l'institution monnaie et la monnaie au sens aglietien du terme, j'allais dire, c'est qu'il y a la confiance derrière tout ça. Et le lien de confiance qui s'établit quand on accepte d'avoir un échange, de se devoir quelque chose l'un à l'autre par le biais d'un titre de dette qui est un euro ou un dollar, c'est quelque chose d'essentiel. Derrière tout ça, il y a une confiance en l'émetteur de la monnaie, qui formellement est une banque centrale, mais in fine oui. est un souverain. Mais et tant que cette confiance perdure, alors la monnaie reste de la monnaie.
Quand vous avez dit ça, vous avez tout dit d'ailleurs, parce que au-delà des sujets extrêmement techniques sur les limites de l'endettement, etc., la réalité c'est que la limite à l'endettement, c'est le jour où on ne fait plus confiance dans la monnaie du pays qui s'est trop endetté.
Complètement. Et c'est ce qu'on a vu à chaque fois qu'il y a eu une crise de dette, une crise d'échange ou des crises combinées liées à ces grandes ruptures macroéconomiques-là. C'est que du jour au lendemain, la confiance s'est perdue. La confiance s'est perdue et souvent ça s'est traduit d'ailleurs par une substitution dans une autre monnaie en laquelle on aurait tendance à avoir plus confiance. En l'occurrence, ça a souvent été le dollar. Mais
alors, le système qu'on connaît tous depuis des décennies, c'est le système où grosso modo, on a une monnaie par pays, voire par zone monétaire et en fait ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire. Il y a eu des phases où il y avait des concurrences entre monnaies. Et donc aujourd'hui on voit se multiplier les concurrents potentiels aux monnaies traditionnelles.
Alors il y a deux ordres d'arguments d'exemple. Il y a eu des épisodes dans l'histoire où il n'y avait pas encore de monopole d'émission de la monnaie fiduciaire. Oui. Par une seule et unique entité.
Absolument.
Aux États-Unis, ça s'est cherché. Il y a eu plusieurs dollars à une époque qui avaient cours légal en parallèle, etc. Bon, on est sorti de ce paradigme-là. C'est-à-dire que je ne pense pas, en dehors des formes très particulières que sont les monnaies locales, il n'y a pas de double circulation de cours légal, je dirais. En revanche, ce qu'il y a, c'est de nouveaux actifs, et là on est en plein dans l'actualité, puisqu'on est dans le discours sur les crypto-actifs, sur le Bitcoin, le Libra, qui finalement sont de plus en plus utilisés à différentes fins, et qui rencontrent un discours qui s'apparente au discours de la monnaie.
Alors, vous appelez ça comment ? Par exemple, le Libra, le Bitcoin, est-ce que c'est des monnaies ? Est-ce que vous parlez de crypto-actifs aussi ?
Alors, je préfère appeler ça des actifs que des monnaies. J'aurais encore aujourd'hui beaucoup de mal à appeler ça des monnaies pour des raisons qui sont liées, in fine, au prêteur en dernier ressort. Je vais y revenir. Mais prenons le Bitcoin et le Libra et son successeur. Ce sont deux actifs, alors qui ont pour avantage d'incorporer des innovations technologiques absolument formidables, dont peuvent s'inspirer les banques centrales. Donc, c'est bien de ce point de vue-là de bousculer un petit peu les banques centrales dans leur précaré, de dire voilà, faut peut-être moderniser la monnaie. Mais en tant que tel, le Bitcoin ou le Libra ne sont pas des formes d'avoir des formes d'unité monétaire qui sont déjà acceptées pour le paiement de l'impôt, c'est-à-dire qui ont rempli cette fonction, cette définition première, mais surtout Ce qu'il n'y a pas derrière ces entités, ces actifs, c'est une garantie de valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on observe effectivement, certains ont fait fortune dans le Bitcoin. Mmh. Il y a des fluctuations tellement massives.
Mais là, on est plus proche de l'or ou d'actifs.
Voilà, c'est un actif. On peut investir dedans. On peut choisir d'avoir ses économies dénominées dans cet actif-là. Mais personne n'empêchera ces actifs d'avoir une valeur très très volatile.
Mais est-ce que par rapport aux monnaies traditionnelles, ce sont des concurrents ou ce sont c'est quoi le monde de demain? Vous l'imaginez comment? C'est-à-dire il y aura toujours les monnaies traditionnelles qui deviendront peut-être virtuelles d'ailleurs.
Je pense que c'est le sens de l'histoire pour le coup. Les monnaies traditionnelles, quand on dit traditionnelles,
le dollar,
c'est
l'euro, le yen, le yuan,
voilà, adossé sur une certaine notion de souveraineté et donc de collectif.
Ouais.
Ça c'est important. Pourquoi? Parce que le jour où il y a un pépin, il faut bien que quelqu'un soit là pour garantir la valeur de vos salaires, de vos économies, de vos avoirs d'ailleurs, de votre bien immobilier s'il est. Donc ça, cette garantie essentielle, la banque centrale est là pour ça. Elle est là pour servir de stabilisateur du système financier le jour où il y a un problème et de garant de la valeur en réalité. Et les banques centrales qui n'y arrivent pas, c'est des banques centrales qui n'ont pas d'indépendance suffisante par rapport au pouvoir politique, donc qui vont, au moindre coup de fil du ministère des Finances, faire tourner la planche.
Mais concrètement, l'euro digital, pour les ménages, ça change quoi?
Alors ça, c'est un point extrêmement important qui fait vraiment débat parce que les banques se retrouvent au centre de la discussion. On parle aujourd'hui de façon très sérieuse de monnaie digitale de banque centrale. Alors, une monnaie digitale de banque centrale, c'est un peu plus que ce qu'on a maintenant. On peut dire que la monnaie finalement centrale, elle est déjà largement virtuelle. On n'a pas besoin. Moi, j'utilise pratiquement plus de monnaie
de yen, liquide, de cash. Ouais.
Voilà. Donc ça, c'est presque déjà de l'histoire, quasi pas tout à fait, parce que dans certains pays, c'est encore très très utilisé. Mais de l'histoire qui va lentement derrière nous. En revanche, ce qui va être complètement nouveau et ce qui l'est déjà testé dans certains pays, c'est que la banque centrale pourrait souhaiter aller directement vers vous et moi, et vous proposer d'avoir un compte sur ses livrets, sur son bilan. J'exagère un petit peu, mais l'idée c'est ça. Ce qui n'est pas possible aujourd'hui, puisque aujourd'hui, si vous voulez ouvrir un compte,
il faut aller
dans une banque commerciale. La dite banque commerciale, elle a accès à la monnaie centrale et elle participe à la transmission de la politique monétaire et elle participe à la création monétaire par cette intermédiation de bilan entre vous, les entreprises et l'émetteur monétaire. Or, ce qui pourrait se produire, c'est que la banque centrale pourrait ouvrir son bilan directement aux citoyens, directement aux entreprises. Ça voudrait dire qu'on aurait directement accès. Alors, ça, c'est un instrument formidable. Ça apporte une transmission.
C'est pas la Banque de France qui va me faire crédit, par exemple.
On pourrait même imaginer que. Alors.
Donc vous dites qu'il n'y aura plus de banque demain.
Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Moi, je pense pas du tout qu'on va arriver à ce scénario-là. Mais je pense que c'est pas une bonne idée d'exclure cette idée de monnaie digitale de banque centrale a priori. Parce qu'on peut y trouver avantage quand on se rend compte que finalement, l'action de la politique monétaire est bloquée par une transmission qui fonctionne pas
donc
très bien.
Donc si demain, il faut faire comme aux États-Unis, verser de l'argent sur le compte de chaque ménage, la fameuse hélicoptère monnaie, c'est-à-dire en gros, où on met de l'argent directement sur le compte des gens, avec la monnaie digitale, c'est possible.
C'est possible, c'est déjà un peu possible.
Alors ce qui m'étonne, c'est qu'à contre-courant de ça, après ce que j'ai envie de dire, vous dites il y a un avenir aussi pour les monnaies locales de proximité. Mais objectivement, moi aujourd'hui, je vois ça comme c'est des bons d'achat pour moi. C'est-à-dire, en gros, c'est des euros de Monopoly. En gros, vous les échangez contre des vrais euros. On vous donne des euros basques, je sais pas quoi, tout ce que vous voulez. Et puis alors, ok, ça vous donne des petites ristournes dans les boutiques du coin, mais c'est pas plus que ça.
Mais ça, pour moi, c'est absolument essentiel en réalité, parce qu'il y a pas d'enjeu de stabilité financière, donc il y a pas d'enjeu de gros sous derrière, parce qu'il faut dire quand même que derrière les substitutions massives de crypto actifs aux monnaies centrales, il y a tout le revenu du seigneuriage derrière ça. On le dit pas trop parce qu'on cache tout ça
on ne va pas expliquer le seigneuriat, c'est très compliqué. Là, c'est quoi, grosso modo?
C'est quand une banque centrale crée ex nihilo un euro, ça crée un revenu, un euro. Avec les taux d'intérêt, ça crée un revenu d'opportunités de détention du cash. Et ça, en général, quand les taux sont positifs, c'est un plus dans les revenus de l'État.
Quelle est votre vision de l'avenir du système monétaire international? Aujourd'hui, on a un système, voilà, chaque zone a ses monnaies, ses monnaies flottent, fluctuent les unes contre les autres. Il n'y a pas vraiment d'ancrage, on n'est plus dans un système où c'est l'or qui sert de référence, ou c'est même plus le dollar qui sert de référence. Vous voyez comment s'organiser ce système monétaire international?
Alors, ce qu'on pourrait appeler de nos voeux, qui n'a jamais réellement vu le jour, mais pourquoi ne pas être un peu utopiste et penser que ça pourrait advenir maintenant, enfin dans les décennies à venir, c'est qu'on n'a pas, on a des zones monétaires, donc des monnaies qui peuvent être concurrentes. Aujourd'hui, le système monétaire international, c'est un système où on a une monnaie clé, on appelle ça une monnaie clé, c'est le dollar aujourd'hui qui domine les échanges, les réserves, etc. On sent que le dollar est un petit peu mis à mal parce que plein de raisons, la géopolitique, l'extraterritorialité et puis les volontés un peu d'autonomisation régionale. La Chine a beaucoup avancé, mais c'est vrai aussi dans d'autres régions. Donc une remise en cause peut-être de cet ordre-là. Mais dans l'idéal, il faudra un système avec des paniers de devises qui assurent la stabilité financière internationale. En quelque sorte, le Fonds monétaire international, en émettant des droits de tirage spéciaux, le fait déjà, c'est un panier, une hybridation, une collection de monnaies. Le Libra avait cette idée de génie d'avoir aussi un panier de devises. Donc cette idée-là, elle est vraiment excellente. Maintenant, pour la mettre en œuvre, on n'a pas forcément tous les outils parce qu'il faudrait une institution monétaire. Le FMI, c'est l'institution la plus proche de ce qu'il faudrait, mais qui soit capable de mettre en lien toutes les banques centrales, d'avoir des accords de swap, donc d'échange de devises au cas où une pression sur une devise appelle des flux de d'équilibrage. On n'a pas encore ça, mais ce serait idéal pour la stabilité financière, macroéconomique et pour la croissance mondiale.
Merci mesdames, je rappelle vos deux livres, Les Français et l'argent, sous la direction de Daniel Cohen et Claudia Sénic, c'est aux éditions Albin Michel, et puis Le futur de la monnaie, coécrit par Natacha Valla, ici présente, et Michel Aglietta, préface de Benoît Queuret. Très intéressante la préface.
Ne serait-ce que pour la préface.
De lire les mots. Ouais. La préface, elle est vraiment excellente. C'est pas si souvent que ça que les livres sont extrêmement bien préfacés. C'est aux éditions Odile Jacob. On se retrouve tout de suite avec nos critiques.
BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre.
On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs, Stéphanie Collo, notre bibliothécaire. Aujourd'hui, c'est Frédéric Simotel qui jouera le rôle de Globetrotter. Et puis, bien sûr, tout de suite, nos critiques. Christian Chavagneux, à ma gauche, éditorialiste et critique de Alternatives économiques. Et puis, Jean-Marc Daniel, qui, lui, est professeur émérite de l'ESCP et le critique attitré de la Société d'économie politique. On commence avec votre choix, Christian Chavagneux, Quentin Mugg, Argent sale, la traque, c'est publié chez Fayard.
Un livre de policier, donc l'auteur est un homme de terrain qui enquête sur l'argent sale, en particulier l'argent de la drogue, donc il va nous emmener sur une grosse affaire, puis une plus petite, pour nous décrire concrètement comment se passent les circuits de l'argent sale. On démarre très très fort, parce qu'on espionne un collecteur. Alors un collecteur, c'est qui? C'est, vous savez, vous avez les petits revendeurs qui vendent la drogue, ils récupèrent beaucoup de billets, ouais. Et vous avez un collecteur qui regroupe tous ces billets, va les compter pour être sûr de savoir combien il y en a, pour aller les porter à quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre, là, c'est un avocat de l'avenue Montaigne, ce qui fait que l'auteur commence en nous disant il a fallu moins de 24 heures à l'argent pour s'embourgeoiser. On démarre très, très, très fort. Alors, ensuite, cet argent, bien sûr, il faut qu'il circule de manière internationale. Là, on va rentrer dans ce que l'auteur a appelé le hawala, qui est quelque chose de la compensation informelle, qui est un mécanisme très, très, très connu de la part des gens qui luttent contre le blanchiment d'argent sale depuis des années et des années. C'est pas l'intérêt du livre. L'intérêt du livre, c'est de nous le décrire concrètement avec une affaire. Parce qu'on a les principes, on sait comment ça fonctionne, mais là, je vais vous expliquer. Ah oui. Donc, on commence donc avec le collecteur qui reprend tout l'argent. Déjà, 2-3% de commission. Et on s'aperçoit qu'avec le collecteur qui suit, il se fait, le gars, quand même 25 000 euros par mois. Donc, c'est quand même un métier plutôt intéressant sur le plan financier. Après, donc, on a ces fameux SARAF, puisque là, on est entre la France et le Maroc, les SARAF. Donc, ce sont ces gens qui font de la compensation informelle. Qu'est-ce que c'est? Là aussi, c'est quelque chose de connu. Hein, les marchands vénitiens du 12e, 13e siècle utilisaient exactement la même chose. Vous voulez transporter de l'argent sans transporter de l'argent. Pouvoir bénéficier de l'argent d'un endroit en venant d'un autre sans avoir à le transporter physiquement. Tout marche sur la confiance, sur la parole donnée. Donc cet argent qui a été récupéré par le collecteur qui va finir chez un Saraf, eh bien il va dire j'ai 300 000 euros et il va créditer le compte par exemple au Maroc du revendeur de drogue, du grand patron qui va être crédité 300 000 euros sans que l'argent ne sorte de France, bien évidemment. Donc c'est juste un jeu de confiance qui va permettre de créditer des comptes, y compris de manière internationale, ce qu'on appelle de la compensation, parce que pendant ce temps-là, celui qui est au Maroc va récupérer de l'argent qu'il doit envoyer en France, et donc on va compenser toutes ces transactions, ce qui fait que l'argent physique n'a pas beaucoup besoin
de banque informelle, quoi.
Sorte de banque, mais complètement, de système d'échange d'argent de tout à fait informel. Là aussi, le Saraf, il prend pas loin de 15%, jusqu'à 15% de commission. Si en plus vous passez d'une monnaie à l'autre, il prend une commission de change, ce qui fait qu'au bout, vous avez perdu à peu près 20% de l'argent blanchi. Les blanchisseurs se font beaucoup d'argent, les vendeurs de drogue se font un peu arnaquer, comme les fraudeurs fiscaux d'ailleurs, qui utilisent les mêmes circuits. On a la confirmation dans ce livre que les fraudeurs fiscaux utilisent les mêmes circuits d'opacité. La commission, bien évidemment, dépend du degré d'opacité que vous voulez mettre. S'il faut empiler plusieurs sociétés écrans au Panama, aux îles Vierges britanniques, où vous voulez au Luxembourg, en Irlande, aux Pays-Bas, eh ben, ça coûte plus cher. Et là, donc, on suit pas à pas, enquête après enquête, enfin, sur une seule enquête, mais vraiment pas à pas, tous ces échanges de monnaie. Les fraudeurs fiscaux qui, à la fin, ont besoin de cash, ils ont l'argent où vous voulez, au Luxembourg, en Suisse, qui ont besoin de cash, généralement, ils vont récupérer l'argent du cash qui a été donné par les revendeurs de drogue. Ce qui fait que aux Pays-Bas, une bonne moitié aujourd'hui, par exemple, de l'argent qui circule est tout empreinte de drogue.
Attendez. Pour bien comprendre, vous dites que la liquidité du système de fraude fiscale est alimentée par les trafics de drogue.
Par la liquidité du trafic de drogue. Et aux Pays-Bas, nous dit l'auteur, il a été à une conférence et une spécialiste du cash aux Pays-Bas a dit la moitié des billets qui sont en circulation sont pleins de drogue. Des petites anecdotes rigolotes, vous savez comment on appelle le quartier de la Défense chez les policiers, le garde-manger. Parce qu'il y a tellement de fraudeurs, il y a tellement de magouilles financières dans le quartier de la Défense qu'il appelle ça le garde-manger. Enfin, une dernière information, moi j'avais l'impression que pour traquer cet argent sale, il fallait être un expert de la finance ou de l'informatique. Non, pas du tout. Il faut être un enquêteur de terrain, le gars qui fait des écoutes téléphoniques, le gars qui fait des filatures, qui se planque dans le Zoom, qui est le truc des policiers qui permet d'avoir tout le matériel. C'est ça, il dit, une vraie traque de l'argent sale, c'est de l'enquête de basique de terrain avec des policiers malins.
Jean-Marc Daniel.
Oui, j'ai trouvé ce livre très attachant et pas... Quand je dis attachant, c'est pas de la condescendance pour l'auteur et qui raconte qu'il a commencé en 1997 comme gardien de la paix, ouais, comme policier de base et qui maintenant est dans ce service, le GOAB, la GOAB, que je sais pas comment il prononce ça, qui est une unité qui dépend de la police financière. Et j'ai trouvé la dimension humaine, par-delà tous les mécanismes que vient de décrire Christian, dimension humaine très très intéressante. Ils ont une vraie complicité intellectuelle et de travail avec le juge. Oui. D'ailleurs, il raconte à un moment donné qu'ils font sur une enquête, ils vont à New York et que le juge est passionné de jazz et ils ont repéré un concert de jazz et ils vont écouter du jazz avec le juge et il dit j'aurais pas imaginé en rentrant dans la police à faire la circulation que je finirais à Manhattan à écouter du jazz avec un juge comme ça. Bon, donc cette dimension humaine est vraiment passionnante et comme le dit Christian, ce que je trouve très intéressant dans cette police que l'on décrit comme étant des fascistes, des brutes en ce moment qu'on essaie de nous présenter comme étant un ramassis de monstres, des gens qui sont véritablement très attachés à leur métier et avec des astuces. À un moment donné, il décrit qu'ils savent à peu près quelle est la somme qui a été récupérée par le collecteur sur le temps qu'il met à compter le nombre de billets. Il disait voilà, alors une heure, ça représente environ 200 000 euros. Il lui a fallu une heure, donc il a ramassé 200 000 euros.
Et là, il dit moi, je me suis trompé. En fait, il est tellement bon qu'il a compté plus vite.
Voilà, exactement. Ah ouais. Et en fait, le gars était. C'est vraiment intéressant et rafraîchissant. C'est souvent des papiers, des livres très théoriques sur la.
Et en plus, je trouve qu'il y a eu un travail d'édition très intéressant qui a consisté à faire en sorte que ce soit pas trop long. Au moment où on commence à dire bon ça va, on a compris, et puis on arrive à la fin du livre.
Bon, on va y aller cash en termes de travail d'édition. Jean-Marc Daniel, vous n'affichez pas le même niveau de satisfaction avec le livre que vous avez choisi. Le livre de Jacques Attali qui s'appelle Histoire des médias chez Fayard. C'est une journée Fayard.
Voilà, c'est le même éditeur et donc c'est surprenant parce que là le livre, j'ai l'impression que l'éditeur comme l'auteur ont confondu vitesse et précipitation. Attali voulait absolument nous délivrer son message sur les médias. Un message d'ailleurs qui, sur le plan intellectuel, et on retrouve toute la qualité et la pertinence des analyses d'Attali à partir du chapitre 12, mais toute la partie historique, d'ailleurs il dit dans l'introduction, si ça vous passionne pas l'histoire, vous pouvez la sauter. je suis à deux doigts de penser qu'il n'a pas tort, parce que on accumule les détails et surtout on accumule les erreurs. Pour autant que je puisse en juger, je vais prendre deux exemples, mais je pourrais les multiplier. Il décrit le message d'un policier de Damas qui envoie des instructions, qui demande des instructions à Constantinople en 158, et il dit il ne reçoit d'informations qu'au bout de 4 ans. Vous rendez compte? Sauf que comme Constantinople a été créé en 330, je pense qu'en 558 il a eu du mal à avoir des instructions. De même, il rappelle, et il a quand même écrit une biographie de Karl Marx, il rappelle la lettre que Marx envoie à Leibniz et à Lassalle au moment du congrès de 1875 de fondation du Parti Socialiste. Je pense qu'à Lassalle, il lui a pas écrit grand-chose parce qu'il était mort en 1864, Lassalle. Donc pour lui écrire en 1875, c'était un peu compliqué. Et donc, il y a tout un tas comme ça de détails qui font que cette accumulation d'informations, elle est fragilisée. Je peux pas vérifier tout ce qu'il raconte, je suis pas omniscient.
Alors zappons la première partie.
Alors, on zappe tout ça. Et on arrive alors à ce chapitre 12, qui là, véritablement, où il définit, il dit, ce qui est intéressant dans les médias, c'est que, à partir de relations qui sont des relations d'homme à homme, on va construire un mécanisme social avec, dit-il, une interférence entre trois éléments: le pouvoir politique qui veut véritablement afficher son pouvoir, l'émetteur d'information, le gestionnaire de l'information qui veut faire du profit, et le client qui en la matière veut se distraire. Et donc la consommation, le consommateur est à la recherche de la distraction, et donc à partir de ce moment-là, la qualité de l'information n'est pas exactement celle qu'on aurait pu espérer au départ. Grosso modo, on est plus intéressé par la famille royale anglaise que par la politique économique de Boris Johnson. Et donc, et à la fin il dit, et on va vers une situation où cette implication personnelle, on va à la fin des fins être quasiment à côté de Geoffrey Winter pour interroger la famille royale anglaise. On va être là, on va pouvoir s'insérer Oprah Winfrey, pardon.
Cité Ophélie Winter par Jean-Marc Daniel. Oui, je n'aurais cru entendre ça. Ophélie Winter dans la librairie de l'Écho, messieurs dames.
Non. Comme quoi, je suis comme Attali, il y a des moments où je suis dans l'approximation.
Attali est pris qu'il croyait prendre.
Hein. Voilà, exactement. Donc, voilà. Donc, chapitre 12 tout de suite.
Bon, Christian Chavagneux.
Alors c'est vrai qu'on a l'habitude avec Jacques Attali d'avoir ces longues perspectives historiques. J'étais surpris qui plonge souvent dans la mythologie. Je m'attendais à quelque part sur Hermès et Mercure. Même les dieux avaient besoin de faire circuler l'information. L'information ici, c'est l'information qui circule, les médias, c'est là, tout ce qui circule comme information. Il y a trois angles. Un premier angle qui est les différents supports qui permettent à l'information de circuler. C'est pas très très original. De fait, les coureurs à pied qui font les premières postes, et puis on va avoir Gutenberg, les journaux, la radio, la télé, les réseaux sociaux. Deuxième angle, et beaucoup plus intéressant, qui a un petit peu abordé Jean-Marc, c'est une information n'est jamais neutre. Elle sert toujours un pouvoir. Quels sont les différents pouvoirs qui ont tourné et qui essaient de contrôler l'information? Les églises, les princes, les marchands pour leur business, mais aussi en faisant de l'information un business pour gagner de l'argent à partir de l'information. Et puis le peuple, ou les peuples. Et bien évidemment, les princes, avec la censure, essaient de conserver l'information, de la manipuler. Les peuples essaient, par tous les moyens inimaginables, de contourner la censure. Les marchands, etc. Là, on apprend plein de petites choses rigolotes. Moi, je croyais que Théophraste Renaudot était le premier grand journaliste français. Pas du tout, c'était un journaliste de cour, nous dit Jacques Attali. On apprend que Diderot et Rousseau voulaient lancer un hebdo qui sera appelé le Persifleur. Mais avec le travail de l'encyclopédie, ils n'ont pas eu le temps. On apprend qu'en 1918, Henry Ford, le grand constructeur automobile, grand entrepreneur américain, a racheté en sous-main un journal pour laisser libre cours à toutes ces diatribes antisémites. Et puis la fin, bien évidemment, c'est du Jacques Attali. Donc c'est la prospective. Là aussi un petit peu de choses surprenantes. Il nous dit les magazines tiennent mieux que les quotidiens. Ça fait 4-5 ans, ça fait plusieurs années qu'on le sait. Les magazines vont devoir, même s'ils tiennent un peu mieux, ils vont devoir faire du podcast, ils vont devoir faire des réseaux sociaux, faire ceci, faire cela. Tout ce qu'il nous décrit, on l'a déjà en fait. Mais évidemment, toujours la tête dans les étoiles avec Jacques Attali. Il nous dit il y a quelque chose qui est théoriquement déjà faisable. Et l'information qui va circuler, c'est la transmission de pensée. Et la transmission de pensée, on peut déjà le faire théoriquement. Et quand c'est plus la transmission de pensée, mais toute la conscience de soi qu'on va transférer comme information, eh bien, on aura trouvé des gens immortels qui vont passer de corps en corps. Voilà, on finit toujours avec des perspectives un petit peu la tête dans les étoiles avec Jacques Attali dans ce livre aussi.
C'est plus notre corps, en fait, qui va devenir... Oui, c'est ça. Chercher l'immortalité, c'est absurde si notre...
C'est la conscience de soi qui va passer de corps en corps.
Sacré Jacques Attali, quand même. Allez, on retrouve notre bibliothécaire, Stéphanie Collot.
BFM Business, la librairie de l'Écho. Les livres d'hier et de demain.
Bonjour Stéphanie.
Bonjour Emmanuel.
Allez, avec vous, on voyage dans le temps. Et j'ai envie de vous dire, cette semaine, embarquement immédiat pour le futur.
C'est le cas de le dire. Effectivement, on va parler de la crise sanitaire qui est venue bouleverser le secteur aérien en pleine euphorie, que ce soit les compagnies, les industriels ou encore les aéroports. Alors, quels sont les prochains défis de l'industrie aéronautique?
Eh oui.
Eh bien, on va voir ça avec le livre de Francis Paulet, Le futur de l'avion, qui est sorti en 2020.
Alors, Francis Paulet, qui est-il?
Alors, officier pilote, Francis Paulet est diplômé de l'école de l'air, ancien général de l'armée de l'air, ingénieur mécanique des fluides. Il dirige aujourd'hui l'Institut Polytechnique des Sciences Avancées, autrement dit, l'école d'ingénieurs de l'air et de l'espace. Il a aussi été le commandant de bord de l'avion présidentiel sous Jacques Chirac. Et il a été aussi conseiller de quatre ministres de la Défense.
D'accord. Alors, il revient... D'abord sur la crise que traverse le secteur, qui est la pire crise depuis que l'avion existe en fait.
Oui, alors lui il parle de grand décrochage à cause de la crise sanitaire. Avant cela, il y avait aussi, le secteur souffrait de ce déficit d'image lié à la honte de prendre l'avion.
Et oui.
C'était né en Suède en 2018. Mais il le dit, Francis Paulet, c'est une industrie extrêmement résiliente qui a vécu d'autres trous d'air, le choc pétrolier, les deux guerres du Golfe, le 11 septembre, le SRAS, ou encore le krach de 2008. Et selon lui, c'est aux États de pousser au redécollage via les plans de relance. C'est le cas de la France qui a débloqué une enveloppe de 7,2 milliards d'euros d'ici 2030 pour le plan hydrogène. Un pari industriel et sociétal incroyable, nous dit Francis Paulet. C'est la transition la plus importante que l'industrie aéronautique ait jamais connue.
Alors, quels sont les défis que doit relever le secteur aérien?
Alors, il y en a quatre. D'abord, certifier la certification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire maintenir le niveau de rigueur actuel en prenant en compte les nouvelles contraintes environnementales. Il s'agit aussi de certifier les innovations et de mesurer leur impact global sur l'environnement et la société. Deux, sauvegarder le connu, ce qui fonctionne, et l'améliorer. Garder le kérosène en le rendant propre, par exemple. Imaginons, nous dit l'auteur, que l'on puisse créer du kérosène synthétique à partir de l'électricité ou d'hydrogène vert. Selon une étude qu'il cite, c'est possible de la produire à grande échelle à partir de 2030.
Ah oui, c'est demain ça.
C'est demain, et il dit, cela voudrait dire que les avions actuels que certains voudraient jeter à la poubelle, eh bien ces avions pourraient consommer ce kérosène synthétique sans la moindre transformation. Troisième défi, explorer l'inconnu.
Oui, c'est... Il faut bien qu'il y ait de l'innovation de rupture aussi.
Absolument. Et là, on parle des biocarburants de troisième génération, kérosène synthétique, on vient d'en parler, de batteries et de moteurs électriques ou hybrides. Francis Paulet nous prévient, il s'agit de changer de modèle de société et de se passer de l'énergie fossile, ce qui suppose à terme un véritable changement de civilisation. Les avions à hydrogène maintenant, eh bien Francis Paulet nous rappelle qu'il existe déjà. Il a déjà volé le 15 avril 88, piloté par Andrei Tupolev. Le vol a duré 21 minutes et à l'époque, Tupolev avait dit « Avant, la priorité était la vitesse, maintenant, c'est de ne pas nuire à l'environnement. » On est en 88, là. Ensuite, remplacer le kérosène par l'hydrogène demande de repenser intégralement l'architecture de l'avion, parce que l'hydrogène, il a besoin d'un volume de stockage 4 fois plus élevé que le kérosène. Airbus travaille d'ailleurs, on l'apprend dans le livre, sur un concept et a annoncé une commercialisation en 2030. Et enfin, quatrième défi, l'inattendu, le futur de l'avion pourrait nous réserver encore des surprises, une percée scientifique, une invention ou encore un événement qui pourrait rebattre les cartes, prévient l'auteur. Par exemple, Lockheed Martin travaille sur un avion avec un réacteur à fusion nucléaire. Airbus travaille sur un dispositif produisant une réaction nucléaire à base d'énergie en utilisant de l'hydrogène. Et puis, l'Institute of Technological Science de Wuhan étudie de son côté les techniques de propulsion par plasma. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous lirez dans le livre si vous êtes intéressé.
Ça pourrait arriver plus vite que prévu.
Mais Francis Paulet le dit, le plus grand défi du secteur, c'est de voler dans des avions parfaitement propre, respectueux des humains comme de l'environnement, et c'est pour lui le défi le plus ambitieux.
Plus ambitieux et peut-être plus imminent que ce qu'on croit. Mais c'est de ces contraintes que naissent les grandes innovations. Merci beaucoup Stéphanie. Eh bien, avec notre globe-trotteur du jour, Frédéric Simotel, on prend la direction de la Silicon Valley.
BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs.
Bonjour Frédéric.
Bonjour Emmanuel.
Notre éditorialiste high-tech à BFM Business. Alors Frédéric, vous nous emmenez aujourd'hui dans la Silicon Valley, cette étrange vallée,
oui.
Comme le dit Anna Wiener. Alors, c'est un livre qu'on avait repéré, hein, qui mm-hmm. était sorti oui. aux États-Unis et qui là vient d'être traduit en français. Donc, pour faire simple, eh ben, on vous propose la version française.
Oui. Aux éditions du Globe. Et en fait, oui, Anna Wiener, c'est un livre autobiographique. Alors, on démarre, il y a un tout petit épisode de début à New York. Hein. Elle a 20 ans, c'est une diplômée dans la littérature, donc elle travaille dans l'édition. Elle s'ennuie un peu, voilà, sa vie est trop tranquille. Elle bifurque une start-up à New York et puis elle se dit, tiens, le monde numérique, mais pourquoi pas? Et puis comme elle entend parler, on est en 2013, hein, donc on est dans Facebook est en train de grossir. La Silicon Valley est évidemment un des endroits les plus fourmillants du monde et elle décide d'y aller. Donc elle se jette là-bas. Elle est embauchée alors c'est toujours important là-bas, employée numéro 20 au support client d'une boîte d'analyse de données.
Comment ça, employée numéro 20? On a des numéros.
On a les numéros, toujours on est en peu numéro. Alors le numéro 1, 2, 3, c'est évidemment les fondateurs. Et puis derrière.
C'est
comme ça qu'ils s'appellent. Elle le raconte quand ils se rencontrent dans les couloirs. C'est,
toi, t'es numéro 20, moi
j'ai. Voilà, pour savoir le degré d'ancienneté.
D'accord.
Grandi ensemble. Alors le ton du livre est assez un peu amer, un peu moqueur, mais vous allez voir même parfois un peu candide. Et donc au départ, elle est quand même fascinée hein, par cet univers de la tech. Elle est même un peu inquiète. Elle se dit, est-ce que je vais avoir les moyens de comprendre un peu tout ça? Elle se retrouve un soir, elle est arrivée, elle se retrouve un soir dans une soirée de spécialistes de la robotique avec des drones qui volent au-dessus de tout le monde, un truc un peu underground. Mais
donc clairement, elle a l'impression qu'elle va arriver chez les surfeurs californiens.
Voilà,
c'est pas du tout ça.
Ça va être la colonie de vacances, quoi. On gagne beaucoup d'argent.
Les chemises à fleurs.
Même elle voit son salaire augmenter. Et puis finalement, elle commence à voir qu'il y a quand même certains qui sont dans le trip LSD. Elle commence à se rendre compte que le côté basket tombe. Non, il y a des types un peu flippés qui arrivent tous les matins au bureau avec des chaussures de sécurité. Elle se sent quand même un peu, c'est l'histoire de la grande colonie de vacances. Elle jongle quand même le big data. Il y a un côté candide parce qu'elle dit oui, alors moi je récupère plein de data clients, puis je me rends compte que toutes ces data, en dépit de toute la réglementation sur la protection des données personnelles, on balance ces data à des grandes marques qui vont les utiliser pour faire du ciblage publicitaire. Donc elle est assez amusée. Elle voit des réunions où on vire les gens, en un clin d'œil. Elle participe même, elle raconte une anecdote, elle est en train de marcher après un dîner dans la rue avec le patron de Stripe. Stripe, c'est l'une des startups qui marche le mieux en ce moment, qui est une startup spécialisée dans le paiement. Et elle marche avec lui et il a un coup de fil. Et en fait, au bout du fil, c'est un investisseur qui lui annonce qu'il vient de faire une levée de fonds incroyable, qui place la société comme une licorne. Donc en un coup de fil, il est à côté d'elle et il apprend qu'il est en train de devenir multimillionnaire.
Mais en fait, c'est surtout un livre sur la vie dans la Silicon Valley. Voilà. Et elle décrit quand même, un monde assez, assez sombre.
C'est ça. En fait, c'est une vie... Alors, je vous conseille vraiment de le lire, parce qu'il y a des clichés, évidemment, mais justement, les clichés, c'est du réel, puisqu'elle les a vécus. Donc, c'est une vie facile qui perd son sens. Hein. On voit l'argent qui gangrène pas mal les jeunes patrons de start-up, la déconnexion des employés de la tech avec le... Ils veulent révolutionner le monde, mais en fait, ils sont un peu déconnectés de ce monde. On s'espionne, il y a des trucs complètement dingues. Dans l'une des boîtes qu'elle va faire, on est espionné par une caméra cachée dans la cafétéria pour voir si on mange pas trop de sucreries qui sont gratuites, quoi. On détourne nos images, on le voit, nos images de badge, elles sont pas terribles. Eh bien, on va détourner les images de badge pour faire des petits gifs animés. On trouve ça très drôle. Bon, imaginez le côté harcèlement, là, quand on parle, c'est un peu ça.
Par contre, c'est pas fun, il n'y a pas de vie nocturne, il n'y a rien
justement,
San Francisco.
Il y a un truc amusant, elle cite jamais les boîtes dans lesquelles elle a travaillé, mais il y a un post médium là sur qui où il y a plein de gens qui ont écrit qui disent ouais j'ai reconnu telle boîte et effectivement elle a une grosse déception avec San Francisco, pas de vie nocturne, une vie culturelle assez triste. On s'est dit vaut mieux retourner à New York. Et donc j'ai lu ça dans le New York Times, il faut plutôt voir ce livre comme l'histoire intelligente d'un rêve qui a tourné court. Voilà, c'est ce qu'il faut décrire et c'est vraiment intéressant, hein.
Parce qu'on nous parle toujours de techno quand on parle de la Silicon Valley, mais là c'est vraiment des portraits humains.
Oui,
la sociologie,
on parle de la misogynie, mais c'est exactement ça. Elle dit j'ai vu des femmes qui une fois arrivées au sommet, ces femmes elles se comportent comme des hommes. L'égalité
homme-femme, elle a vu du sexisme,
voilà, exactement.
Elle a vu de l'autoritarisme finalement. Ouais. Voilà.
Silicon Valley. Il y a un côté candide, il y a un côté ironique. Enfin, allez-y, Anna Wiener, l'étrange vallée.
Merci beaucoup, Frédéric Simotel, pour ce voyage dans l'étrange vallée. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
BFM Business, la librairie de l'écho.
les livres de la dernière minute.
Jean-Marc Daniel, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui ?
Alors j'ai choisi un livre qui s'appelle « Au royaume de la CGT » de quelqu'un qui s'appelle Jean-Bernard Gervais chez Michalon. Donc c'est un ancien militant de la CGT qui a été déçu par la façon dont se comporte la CGT.
Ça dézingue, hein ?
Ah oui, alors c'est un pamphlet qui... Donc la partie assez personnelle d'attaque de Philippe Martinez est peut-être un peu excessive et pas très intéressante. En revanche, la description du fonctionnement et de la déliquescence, il n'y a pas d'autre mot, de ce syndicat, est passionnante.
Parfait.
Une bande dessinée Kilomètre Zéro volume 2, puisque je vous avais déjà parlé du volume 1, c'est Nicolas Koechlin, la famille Koechlin qui va établir le premier liaison ferroviaire entre Mulhouse et Bâle, et donc on a tout le capitalisme de la deuxième moitié du 19e siècle français. Quand on vous dit c'est pas possible, vous pouvez pas le faire, et bien si, quand on a un entrepreneur, et bien on arrive à faire des choses, et en même temps tout le pire du capitalisme français avec l'exploitation éhontée des gens par le bas, et la BD nous donne les deux, c'est toujours remarquable. Volume 2, après le volume 1, si vous avez loupé le 1, il faut lire les deux.
Eh ben voilà, c'est clair, merci pour votre enthousiasme. Eh ben moi, je vais vous proposer le livre de Philippe Pétria, Au pays de l'or noir, au pays au pluriel. C'est, comme il le dit, Philippe Pétria, une histoire arabe du pétrole. C'est vrai que l'histoire du pétrole, elle est toujours beaucoup racontée par le biais de notre regard occidental, les grandes compagnies pétrolières, etc. Eh bien là, c'est vraiment toute l'expérience des pays arabes depuis que le pétrole a complètement changé leur vie et leur économie, mais aussi toute la transition qu'ils sont en train d'effectuer vers l'économie post-pétrolière avec des sources, des données qui sont avant tout justement arabes. Et donc c'est un regard un peu non occidental sur cette grande saga pétrolière. C'est passionnant. Au pays de l'or noir, une histoire arabe du pétrole par Philippe Pétria. C'est aux éditions Folio Histoire. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bien évidemment, bonne lecture.